El Sistema, ce programme qui vise à faire jouer de la musique en ensemble à tous les écoliers. Un Sistema qui inspire en Suisse de nombreuses initiatives d'orchestre en classe, soit, pour faire simple, du violon pour tout le monde à l'école primaire et en groupe. S'il est certain que ces initiatives ont des résultats musicaux, on peut se demander si elles influent sur le développement de l'enfant. C'est ce que vous vous êtes demandé. Clara James, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis nos studios de Genève. Vous êtes professeur à la Haute École de Santé de Genève. À vos côtés, il y a Guillaume Cartenoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez, vous, à l'Academia d'Archi. C'est une école de musique dans le canton de Genève. On va discuter aujourd'hui avec vous des effets extra-musicaux de l'orchestre en classe, puisque Clara James, avec votre équipe, vous avez mené une recherche de plus de 2 ans. Je vais en résumer le dispositif. Vous allez me dire si c'est juste. Vous avez suivi donc pendant 2 ans une 70aine d'enfants. On les avait répartis en 2 groupes, donc à peu près 35 de chaque côté. Aucun de ces enfants n'avait eu de cours de violon ou disons d'apprentissage assez explicite et suivi de la musique. Et on avait un groupe, donc à peu près 35 enfants, qui faisaient l'orchestre en classe à raison de 2 périodes par semaine. Et puis l'autre groupe, le groupe contrôle, ce qui représente, disons, la norme, qui, lui, avait une période de rythmique et une période de chorale par semaine. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait passer différents tests à ces enfants, des tests qui mesurent des capacités cognitives, des capacités de mouvement, des capacités musicales aussi. Et on a passé ces tests à 3 moments. Alors, avant qu'ils s'engagent dans l'expérience, après 1 an de cours et aussi après 2 ans. Les résultats seront présentés demain au public. Ils vont ensuite faire l'objet d'une publication scientifique. Ce n'est pas encore le cas. Alors, Clara James, déjà, est-ce que la description est juste ?
Ben, tout d'abord, un orchestre avec que des violons, ça sera un peu monotone. C'est donc en fait tous les instruments, comme on appelle ça, à cordes frottées, c'est la famille du violon. Hein. Donc violon, violon alto, violoncelle et contrebasse.
Donc des petites contrebasses, où, enfin, on aura tous les détails sur la partie plus musicale avec Guillaume Cartenoux. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, Clara James, en vous basant sur ce que vous avez mesuré, après 2 ans, qu'est-ce qu'on voit de différent chez les élèves qui ont pu suivre l'orchestre en classe en termes de capacité par rapport à l'autre groupe ?
Oui, alors, moi je préfère de parler de groupe témoin, et ces enfants ont donc eu des cours de musique d'une même fréquence et durée. Ça, c'est très important. On ne les compare pas avec les enfants qui ont fait 2 fois 45 minutes, je ne sais pas, tennis de table. Ce qui donne aussi des avantages par ailleurs. Les avantages, j'aimerais juste d'abord expliquer la complexité, parce que c'est donc des enfants entre 10 et 12 ans qui ont participé, hein, en moyenne, qui tous se développent bien sûr très fortement pendant cette période de leur vie. Donc c'est pas comme si uniquement les enfants qui suivent ces cours de musique en classe, mais surtout cette pratique de vraiment pratiquer un instrument, parce que c'est là où il y a le mot secret pour moi, qui fait donc que cette activité est un moteur de recherche. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ben, on a trouvé des avantages dans le développement, donc disons un développement plus poussé, parce qu'évidemment les enfants témoins se développaient aussi, eh bien, en général, mais ce qu'on peut observer, c'est que certains ingrédients de base de la cognition, de l'intelligence, ont quand même bougé plus fortement dans le groupe orchestre en classe, comme, par exemple, l'attention focalisée, très important, et souvent sujet à des problèmes dans nos jours avec tellement de distracteurs. La mémoire de travail, on se demande toujours ce que c'est, donc c'est un mémoire à court terme.
Alors, mais pas... je vous interromps, donc la mémoire de travail, oui. Pouvoir se rappeler par exemple un numéro de téléphone, le temps qu'on en a besoin, et puis l'oublier après, mais avoir quelque chose qui se fixe assez bien et dont on peut, qu'on peut exploiter, dont on peut disposer pendant un moment. En tout cas moi, je vois, mais l'attention focalisée, est-ce qu'on parle du fait de pouvoir se soumettre à une activité et y porter toute son attention, c'est un peu comme
son
nom l'indique.
Choisir parmi tous ces éléments qui sont dans notre entourage, ceux sur lesquels on choisit de se concentrer, sur lesquels on doit se focaliser pour réussir une tâche, par exemple. Et ça peut être visuel, mais par exemple dans l'orchestre en classe, ça sera suivre son propre jeu parmi tout le reste de la classe. Maintenant, la mémoire de travail, vous avez trop simplifié, parce que c'est très riche, parce que donc il y a la mémoire à court terme. Et ça peut suffire pour un numéro de téléphone. C'est juste que si jamais, entre-temps, il y a des interférences, vous devez aller à votre voiture, appeler votre femme, et puis après 2 minutes seulement, vous pouvez noter ce numéro de téléphone. Donc, le mémoire de travail demande une manipulation des informations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fortement sollicité quand on fait de la musique, raison pour laquelle je pense que ça a été renforcé.
C'est plus qu'un souvenir, c'est un souvenir exploitable ou qui fait, disons, l'objet d'un traitement ultérieur.
Ben, si la mémoire à court terme ou même la mémoire à long terme est comparable avec le disque dur de votre ordinateur, la mémoire de travail, c'est plutôt le RAM, la mémoire vive. Donc, en fait, on peut manipuler les éléments qu'on a dans la mémoire, que ce soit à court terme ou à long terme. Et ça, c'est très important pour réussir beaucoup de tâches. Par exemple, quand on joue dans un groupe, il faut tout le temps évaluer ce que je viens de jouer. Est-ce juste comment ça se rapporte à la personne à côté de moi? Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce que je viens d'écouter à côté de moi? Donc, c'est vraiment tout le temps cette manipulation de l'information. Ça ne suffit pas de le retenir dans l'ordre. En fait, il faut l'utiliser de façon active afin de réussir une tâche.
Et ces deux paramètres, par rapport au groupe témoin, ils sont un peu augmentés, moyennement augmentés, très augmentés?
Moyennement augmentés. De toute façon, je dirais que tous les avantages qu'on a observés, c'est des avantages modérés, mais, excusez le terme, statistiquement significatifs. Et c'est déjà énorme parce que on parle là de vraiment de briques de base de notre fonctionnement. Donc que ça s'améliore et que c'est clair, ça c'est quand même très intéressant. Il y a aussi le traitement de l'information qui a été augmenté, donc à quelle vitesse on peut comprendre et suivre des informations et comment en fait s'adapter aussi à des situations nouvelles. Ça s'appelle la flexibilité cognitive. Donc ça, tout ça, c'est plutôt très basique et je pense que c'est donc sous-jacent à la pratique musicale et à d'autres activités cognitives. Voilà, donc là, on est resté dans tout ce qui est quand même relativement simple, mais figurez-vous que ces enfants ont aussi eu des meilleurs scores pour un test de raisonnement abstrait. Et ça, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est en fait le fruit des avantages que je viens de vous décrire, qui sont nécessaires pour faire un raisonnement.
Si on poursuit votre analogie des briques, on avait ces éléments plutôt fondamentaux. Quand on leur fait passer ce test de raisonnement et que leur test montre une progression plus importante que le groupe témoin, c'est, pour filer la métaphore, un peu comme si on avait mis les briques ensemble.
Oui, tout à fait.
Guillaume Cartenoux, vous qui êtes à côté de Clara James aussi dans nos studios de Genève, vous pouvez empiriquement peut-être nous expliquer un petit peu quel développement on voit chez ces enfants qui ont a priori jamais touché un violon. Est-ce qu'en 2 ans, de votre point de vue, du point de vue de l'enseignant de musique, on voit leur capacité de concentration, leur capacité de mémorisation nécessaire pour jouer ensemble augmenter?
Oui, et bien évidemment, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que de jouer d'un instrument, surtout quand on n'a pas du tout d'atmosphère musicale à la maison, c'est très compliqué. Vous imaginez l'enfant qui est en train de grandir, qui n'est pas forcément tout à fait habile avec son corps, on lui dit d'un coup, tu vas prendre cet objet, ta main droite, elle va faire quelque chose, ta main gauche, elle va en faire une autre, chacun de tes doigts va avoir un mouvement différent, ce mouvement va créer un son, ce son, il va falloir que tu l'écoutes, que tu l'analyses, que tu vérifies si c'est ce qu'a demandé le professeur, si c'est ce que toi tu espères, si tu trouves ça joli ou pas, et en plus de ça, il va falloir que toi, tu écoutes ton voisin et que tu fasses en sorte de jouer à la même vitesse que lui, pas trop fort, etc. Donc ça demande une concentration tout à fait énorme et je ne suis pas du tout surpris de voir les résultats de Clara sur la concentration, sur la mémoire, ça demande une telle maîtrise que on le voit nous quand on...
Alors justement, mettez-nous dans vos baskets à T0, vous commencez ce processus qui va durer 2 ans et au bout de 2 ans, le groupe qui est devant vous, j'imagine qu'il réagit de manière très différente, et les individus qu'il compose aussi.
Ah oui, au tout début de l'aventure, on a 25 élèves qui sont là très motivés pour jouer d'un instrument. Ils le prennent chacun de leur façon. Ils jouent plus ou moins habilement en fonction de leur aptitude de base. Et au bout de quelques mois, on les voit commencer à avoir l'écoute qui s'ouvre. Au bout de quelques mois de plus, ils font naturellement la balance sonore. Et puis, on arrive à des concerts, comme vous allez probablement entendre plus tard, où on a l'impression d'avoir un orchestre d'enfants qui a travaillé, presque tous les jours, alors que non, au départ, on les voit 45 minutes et toujours en ensemble.
C'est vous qui l'avez annoncé. On l'a effectivement préparé, un extrait d'un concert donné à la Fête de la Musique en 2018, où des élèves qui participent à l'orchestre en classe jouaient avec des membres de l'OSR, jouaient Quién ta quién, une œuvre d'Étienne Perruchon. Les applaudissements au Victoria Hall à la Fête de la Musique 2018 pour l'orchestre en classe des membres de l'OSR dans Quién ta quién, cette œuvre d'Étienne Perruchon. Vous étiez également dans la salle, Clara James et Guillaume Cartenou.
Oui, tout à fait. Moi, à dire vrai, j'étais
même sur scène.
Sur scène avec les enfants, oui, oui. Oui, enfin, j'en ai les frissons encore à réentendre cette musique.
C'est très impressionnant le résultat. Hein.
Oui, au bout de 2 ans, imaginez, on part, comme je disais tout à l'heure, des enfants qui ne savent rien faire d'un instrument, on les met sur scène devant, en plus au Victoria Hall, la chance de cette belle salle. Ah si, ce qui est très drôle, c'est de les voir rentrer sur scène et de découvrir, on les prévient à l'avance, mais quand ils y sont vraiment, ils découvrent cette magnifique salle de concert, alors là, il y a les yeux qui pétillent, non, c'est extraordinaire.
Et là, c'était nos participants, hein, 2016-2018.
Vous
donc
entendez
c'était vraiment les enfants qui ont participé à la recherche.
Vous entendez les sujets de l'expérience, vous entendez que, en tout cas, ils jouent bien. Une recherche, Clara James, donc, qui montre que la progression sur certains paramètres est supérieure avec l'orchestre en classe par rapport à la musique, disons, comme on l'a fait traditionnellement à l'école. Si l'on essaye d'extrapoler, alors je vous laisserai la liberté de le faire un peu ou beaucoup, qu'on essaye d'expliquer à nos auditeurs ce que ça peut représenter, quelles améliorations scolaires ça pourrait provoquer.
Ben, puisqu'il s'agit de ces éléments de base, ça sera très généralisé. Et si on a une meilleure attention, une meilleure mémoire, un meilleur raisonnement, on va donc apprendre à mieux planifier, à mieux comprendre, à mieux raisonner, à mieux résoudre des problèmes. Donc on prépare vraiment l'enfant pour toutes ces choses dont il a besoin, en enseignement secondaire. En enseignement primaire, on apprend beaucoup de choses par sillon. Il faut faire les calculs, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais à l'école secondaire, c'est la mise en rapport des choses qui prend le dessus. Et là, je pense qu'on leur donne un grand coup de main pour mieux s'intégrer dans ce milieu-là, oui.
Est-ce que le fait de le faire en groupe a aussi un impact ? Est-ce qu'on apprend à être ensemble autour d'une tâche différemment à travers la musique ? Ça, c'est une question qui peut s'adresser à vous, Guillaume, ou à vous, Clara ?
Je laisse très volontiers après le mot à Guillaume, et j'aimerais juste qu'il me confirme qu'en principe, le niveau individuel de ces enfants n'était pas le même que s'ils étaient en cours privé au conservatoire populaire. Donc, en conclusion, qu'on observe quand même de tels résultats, met un accent sur le fait que ce jeu d'ensemble joue un rôle clé.
Oui, alors tout à fait. Moi, il y a quand même une chose qui
Guillaume
m'a
Cartenou.
Étonné. Je ne pensais pas qu'on y arriverait, surtout aux premières années. C'est de voir, et je te contredis un tout petit peu, Clara, le niveau, la capacité de l'élève à jouer des notes en fin de deuxième année, pour être plus clair, si je prends un élève que j'ai eu suivi 2 ans en cours individuel, je lui fais faire les mêmes morceaux s'il a fait 2 ans d'orchestre à l'école, d'orchestre en classe, que s'il a fait deux ans de cours individuels. La seule différence, évidemment, c'est qu'au niveau de la position, ce sera un petit peu moins propre, peut-être qu'il aura une amplitude de nuances moins développée, peut-être qu'il y aura plus d'accidents de son, mais en tout cas, il sera capable, et ça c'est très étonnant, de jouer la même chose. Et ça, c'est dû, je crois, au groupe, à l'effet de synergie du groupe, que mais on est porté par le voisin, qu'on le veuille ou non, on le regarde, on le voit, si c'est quelqu'un qui est plus à l'aise, on va avoir tendance à mimer corporellement ce qu'il fait. Nous, les professeurs, on passe un temps, quasiment tout notre temps, à développer l'écoute de l'élève, l'écoute de son instrument, l'écoute du voisin pour arriver à le suivre. Ça veut dire quoi ? Que l'élève, il va être obligé de se mettre finalement au service de son voisin, au service du groupe, et de trouver les ressources pour améliorer son son et donc sa position, etc., pour progresser.
Pour mettre un peu une sauce,
Clara James.
Si je peux mettre une
Bien
petite
sûr.
Sauce scientifique là-dessus, parce que je suis entièrement le raisonnement, mais je suis plutôt étonnée d'entendre qu'il avance si bien. Hein. Ce qui se passe, c'est que on entraîne en groupe surtout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est s'adapter dans des situations complexes. Par exemple, on fait une faute, on l'entend parce que ça va plus avec le reste. Alors il faut donc arrêter de jouer, il faut inhiber, on appelle ça. Et puis après, il faut retrouver où est-ce qu'ils sont, où est-ce que je les rejoins.
Raccrocher les wagons.
Exactement, mais tous ces fonctionnements-là sont des fonctionnements en fait, cognitifs de très haut niveau, qui sont à la limite peut-être plus entraînés en orchestre, en classe, que dans des cours traditionnels, surtout au début, quand on ne fait pas encore trop d'orchestre ou de jeu d'ensemble.
Et qu'est-ce qu'on joue, Guillaume Cartenou, avec ses enfants ?
Alors c'est très progressif. On joue de tous les répertoires. Alors principalement de la musique classique, mais on va aussi aller visiter ce que les enfants écoutent au quotidien. C'est-à-dire on leur laisse souvent, on leur dit alors qu'est-ce que t'aimes en ce moment, fais-nous découvrir ce que t'écoutes à la radio. Et puis si on voit qu'il y a un ou deux chanteurs qui peuvent être adaptés, alors on le fait bien volontiers. Donc voilà, pour vous dire, on a pu jouer du Bach, du Vivaldi, du Mozart, et puis aller jusqu'à Shostakovich, et puis encore Daft Punk, etc. On a fait du David Guetta, on a fait tout, Indochine, plein de choses. On essaye de varier au maximum.
On n'était pas là pour enregistrer votre version de Get Lucky avec les élèves de l'orchestre en classe Guillaume Cartenou, mais du coup, on a quand même été chercher le CD de Daft Punk dont on écoute maintenant un extrait.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Et les Daft Punk Get Lucky avec des cordes, mais pas vos cordes, pas celles de l'orchestre en classe Guillaume Cartenou. Quelle relation vous entretenez avec vos collègues du groupe contrôle, du groupe témoin, c'est-à-dire que les professeurs de rythmique, qui d'habitude sont dans les écoles, contribuent également à l'orchestre en classe, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. En fait, on est une équipe de 4 professeurs, 2 professeurs spécialistes instruments de musique, donc de l'école de musique pour une corde aiguë et corde grave. On fait équipe avec le maître de discipline artistique spécialisée et le maître titulaire de classe. Donc à nous 4, on est là pour faire en sorte que ce projet orchestre en classe vive pendant 2 ans et amener les élèves à grandir, s'épanouir musicalement, s'épanouir dans le groupe. Et voilà, et découvrir tous les bienfaits que peut procurer la musique.
Je comprends mieux. Clara James, vous qui, professeur Clara James, vous qui, avec votre équipe, avez suivi des enfants de 10 à 12 ans pendant, pendant 2 ans, qui avaient soit des cours d'orchestre en classe, soit l'éducation musicale classique telle qu'on la trouve à l'école. Est-ce que votre recherche est originale? En ce sens que vous avez vraiment pris des enfants, disons, comme on en trouverait partout dans la rue, voire même en excluant ceux qui avaient déjà des connaissances ou un entraînement musical. Est-ce que c'était une première de le suivre comme ça, sur la durée, avec ces enfants-là ?
La plus grande partie de la littérature sur les avantages de la pratique musicale se concentre quand même sur des enfants provenant des milieux privilégiés. Et ça, c'est donc très important pour moi. Et j'étais souvent dans cette école, j'ai vu ces enfants. C'est clair qu'ils viennent de non seulement de tous les milieux, mais aussi de toutes les parties du globe, les parents parlent souvent pas le français, etc. Et ça, c'était très important pour moi, de voir donc que cet effet est vraiment un effet de la pratique musicale et pas un effet d'avoir des parents qui stimulent plus ou qui ont plus de sous, voilà, ou qui peuvent plus aider les enfants. Parce que là, à la maison, il n'y a pas de l'aide avec ces enfants-là, ils ont que les cours, mais il y en a deux par semaine, hein, ça c'est vraiment très chouette aussi. Par ailleurs, la plupart des gains ont été constatés après les 2 ans complets de l'étude, ce qui est très important aussi pour la continuation du programme. Une année, ça ne suffit pas. On voyait souvent des résultats, mais ils n'étaient pas encore confirmés, ou pour reprendre mon jargon, ils n'étaient pas encore statistiquement significatifs. Donc c'est vraiment aussi cette persistance qui, selon moi, pourrait aller encore plus loin que 2 ans pour vraiment renforcer ces avantages qu'on a pu observer.
Guillaume Cartenou, c'est aussi le point de vue du professeur de violon. Après 1 an, il y a quelque chose qui débloque, ou enfin, disons, le progrès jusque-là fait que la 2e année permet de capitaliser sur les progrès déjà réalisés.
Absolument d'accord, oui. On voit que tout le début de l'apprentissage, l'élève est très concentré sur le maniement de l'instrument. Et quand il arrive à être à l'aise avec, alors là, d'un coup, on sent qu'il s'ouvre aux autres, que l'écoute grandit et que du coup, son comportement au sein de l'équipe, elle, avance. Et c'est là qu'on se met à faire des progrès en orchestre énormes et à pouvoir avancer sur du répertoire beaucoup plus compliqué.
Clara James, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a d'autres programmes, possibilités, choses qu'on peut mettre en place à l'école, pas forcément musicales d'ailleurs, qui auraient un impact similaire sur les points que vous avez mesurés?
Bon, il y a par exemple apprendre une 2e langue, aussi le plus tôt possible, s'il vous plaît, merci.
Et on vous entend.
ouais, mais ça, en Suisse, faut encore travailler un petit peu là-dessus, selon moi. Venant d'un pays où déjà, dès le plus tendre âge, les enfants apprennent aussi l'anglais à l'école. Jouer au foot ou au tennis, jouer aux échecs, tout ça, ça a des effets comparables. Aussi le sport, hein. Mais maintenant, l'originalité de la pratique musicale, c'est qu'elle combine, en fait, du sport de haut niveau, même si c'est sur un niveau micro, avec des éléments intellectuels très poussés. Et oublions pas l'émotion, parce que j'espère que Jérôme va confirmer, mais le grand moteur derrière tout, c'est cette grande satisfaction de produire une musique qui évoque en nous des émotions fortes. Et on veut tellement produire cette mélodie, et donc évoquer cette émotion, qu'on a une motivation très intrinsèque pour travailler beaucoup plus que quand on doit faire des calculs ou d'autres exercices. C'est-à-dire il y a ce grand stimulant qui est notamment la raison d'être de la musique, qui est la communication émotionnelle.
Guillaume Cartenou, ça, enfin, vous le disiez, hein, l'effet du groupe est très important pour la qualité de la performance que vous mesurez, mais le fait aussi de contribuer à quelque chose qui met en jeu les émotions est un moteur fort pour ces enfants.
Oui, exactement, pour les enfants comme pour les adultes, jouer de la musique, c'est quand même quelque chose. C'est indescriptible. On a toute la vibration, tout le corps vibre avec l'instrument. Quand on est en orchestre, c'est multiplié par je ne sais combien. De se faire plaisir, de faire plaisir au public, c'est vraiment quelque chose d'émotionnellement fort, vraiment.
Un tout dernier mot avant qu'on doive vous quitter et vous laisser à Genève, qui s'adresse à vous deux, et peut-être plus spécialement à la professeure Clara James. Le rapport qui présente ses premiers résultats, qui sera dévoilé au public demain, se conclut par une incitation assez forte à généraliser ces programmes d'orchestre en classe, à pouvoir les offrir à toutes les classes, en tout cas du canton de Genève. Clara James, quels sont les arguments scientifiques pour une telle mise en œuvre plus importante?
Oui, en fait, vous me demandez bon, là quelque chose que j'ai déjà expliqué là à plusieurs reprises.
Redis-le,
donc, il y a donc les éléments d'un développement plus poussé, vraiment pour les ingrédients de base du fonctionnement intellectuel, mais aussi de la vie de tous les jours. Ça, je l'ai pas dit, mais il y a pas que l'intelligence académique. Il y a aussi le raisonnement logique. Ben, il joue aussi un rôle quand on fait la cuisine ou quand on essaye d'au mieux organiser sa vie au cours de la journée. Et puis de donner cette chance aux enfants de le faire en groupe et d'avoir aussi ce sentiment d'appartenance et d'évoluer ensemble avec des grands avantages quand même pour le fonctionnement intellectuel. Et on l'a négligé aussi un peu, le grand développement sur le plan de la dextérité manuelle et de la coordination bimanuelle, très important dans notre monde très informatisé. Voilà, c'est tout ça. Maintenant, moi j'aimerais à la limite... Parce que je suis neuroscientifique à la base, c'est une des rares études où j'ai pas mis mes participants, mes sujets dans un scanner IRM ou que j'ai mis un bonnet électroencéphalographique sur leur tête. Mais je suis sûre qu'il y a donc de grands changements sur le plan de leur fonctionnement, mais aussi de la structure du cerveau, que ça soit la matière grise, les briques de base de la pensée ou bien les voies de communication, donc la matière blanche. Je suis sûre qu'il y a des grands changements et ces changements sont probablement durables. A été déjà démontré à plusieurs reprises, ce qu'on apprend à un tendre âge, ça reste. Et voilà, donc moi je suis convaincue qu'on doit offrir ça à tous les enfants. Pour le langage, tout le monde trouve ça normal, mais la musicalité, la pratique musicale a toujours été la petite sœur retardée du langage. Pourquoi ? Elle est là depuis l'aube de l'humanité, et moi je pense aussi que les racines du langage et de la musique sont c'est les mêmes, quoi. C'est les premiers systèmes de communication.
Ce sera le mot de la fin, Clara James. Un grand merci d'être venue nous parler de cette recherche dans magnétique. On rappelle que vous êtes professeur à la Haute École de Santé de Genève. Un grand merci à vous aussi, Guillaume Cartenou, professeur à l'Académia d'Archi, une école de musique dans le canton de Genève. On parlait ensemble des conséquences sur le développement des enfants de l'orchestre en classe. Quelques notes du printemps de Vivaldi, revisité par Max Richter, les quatre saisons, un des grands classiques qu'on joue aussi dans l'orchestre en classe.